Merci Seigneur pour cette porte grande ouverte dans le ciel, pour ce voile déchiré du haut en bas et qui nous donne un libre accès dans ta présence. Merci Seigneur de bien vouloir nous rencontrer, nous visiter, comme toi seul tu es capable de le faire. Toi qui nous connais dans nos besoins particuliers et qui veux répondre au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Merci de tout cœur, Père, en Jésus-Christ. Amen. Deux lectures pour introduire cette quatrième étude. La première dans le Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques. Au chapitre 5, Cantique des Cantiques, chapitre 5, versets 2 à 8. Cantique des Cantiques 5, 2 à 8, je lis au verset 2. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je ? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je ? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. De mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes doigts la myrrhe s'est répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé, il avait disparu. J'avais le souffle coupé quand il me parlait. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, il ne m'a point répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous ? Que je suis malade d'amour. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 50, un passage déjà lu, mais nous lisons surtout le verset 4. Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue de disciple pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute, comme écoutent des disciples. Et nous avions commenté la suite du texte, essentiellement hier soir, au verset 5, le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. tu m'as creusé des oreilles. C'était là notre conclusion d'hier soir. Le Père a creusé des oreilles au Fils. Et c'est parce que les oreilles du Fils ont été creusées dans une obéissance jusqu'à la souffrance la plus extrême, que ses pieds et ses mains et son côté ont été percés pour nous. Nous avons donc considéré deux des sept caractéristiques d'une écoute de Dieu allant dans le sens de sa pensée telle qu'elle nous est révélée dans les Écritures. Écouter Bible ouverte, écouter porte fermée. Je pense à cet artiste de grande réputation qui un jour demanda à l'un de ses amis de venir chez lui pour examiner une peinture qu'il venait de terminer. L'ami arrive à l'heure prévue, fixée, et curieusement, au moment où il frappe à la porte, ce n'est pas l'artiste qui vient l'accueillir, mais une personne, peut-être quelqu'un du personnel, qui l'introduit dans une chambre totalement obscure et qui le laisse là, planté dans la pièce sans aucune explication. Il ferme la porte. Notre ami est très surpris et néanmoins, il attend tranquillement la suite des événements, mais les minutes s'allongent. Et ce n'est qu'au bout d'un quart d'heure que le peintre le rejoint dans cette pièce et le salue cordialement. Tous deux gagnent l'atelier où se trouve la peinture et l'ami admire le travail de l'artiste jusqu'à ce qu'il soit obligé, bien sûr, leur venant, de se séparer. Mais l'artiste dit encore en riant à son hôte, « Mais je suppose que vous avez dû trouver étrange d'avoir été si longtemps seul dans cette chambre obscure. » « En effet, » répond l'autre. Et l'artiste alors de simplement donner l'explication. « Je savais que si vous pénétriez dans mon atelier l'éclat de la rue dans vos yeux, vous ne pourriez apprécier le fin coloris du tableau. C'est pourquoi je vous ai laissé dans l'obscurité, attendant que vos yeux soient reposés. » Nous avons reposé, il y a un petit moment, les yeux de nos oreilles, comme nous le disions hier, dans notre introduction de l'après-midi, puisque nous l'avons remarqué dans la culture orientale et juive en particulier, on regarde avec les oreilles. Les oreilles ayant primauté sur les yeux, alors que dans la culture grecque, les yeux occupent la place prépondérante. Le théâtre antique, d'ailleurs, en est la preuve. Le théâtre antique était beaucoup plus centré sur ce que l'on voyait que sur ce que l'on entendait. D'ailleurs, le terme théâtre est un mot grec qui veut dire précisément, qui vient en tout cas d'une racine qui exprime l'importance de voir, n'est-ce pas? C'est intéressant. Alors, nous allons plus loin, puisque nous avons encore cinq étapes dans ces caractéristiques d'une saine écoute selon la pensée de Dieu. Alors je vais ressortir J'ai pas dit ce que je ressortais, n'est-ce pas? Vous avez remarqué. Je sais pas si vous voyez la différence. C'est pour aider certains d'entre vous à dormir cette nuit. Il semble qu'il y ait eu certaines peurs. Bien que ce soit vraiment de la matière, là, et de la matière inerte, n'est-ce pas? Il y a eu à quelque part des peurs de s'approcher, de peur que subitement, cette espèce de truc qui est là, n'est-ce pas? Où est-il? Il ne bouge pas, je vous assure. Subitement de se mettre en mouvement. Alors je suis persuadé que cet après-midi, certains d'entre nous vont se précipiter pour venir récupérer la paire de ciseaux et couper la ficelle sans trembler au numéro 3. Alors qui se précipite maintenant que l'obstacle a été supprimé? Qui veut bien? Une dame, bien entendu, chère sœur.
C'est pas parce que j'ai peur.
Heureusement que vous le précisez, ça nous rassure. Merci.
Matin après matin.
Merci tout plein. Matin après matin. Vous avez remarqué dans Ésaïe 50, verset 4, dans la seconde partie, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Alors quand on touche à cette troisième dimension, on heurte de plein fouet ceux et celles qui parmi nous ont une horloge interne qui les classe dans ce qu'on appelle la famille des nocturnes, c'est-à-dire ceux et celles qui éprouvent un mal certain, évident, à se coucher tôt et qui commencent à se sentir comme des anguilles dans l'eau vers 4-5 heures de l'après-midi. Alors le potentiel qui est caché en eux, en elles, se développe, et vers 10h, 11h du soir, ils sont performants quant aux matinées, elles sont très difficiles. Vous savez, généralement d'ailleurs dans les couples mariés, vous avez un diurne qui épouse une nocturne, ou un nocturne qui épouse une diurne. Ça fait partie de ces évidentes complémentarités, inconsciemment, l'un étant attiré vers son contraire. De même que les introvertis sont poussés à tendre la main et le cœur aux extravertis et vice-versa, n'est-ce pas? Je suis un diurne contrarié, puisqu'il se trouve que les réunions ont lieu en majorité le soir. Ce qui a toujours été pour moi un immense handicap, c'est le matin que je nage comme un poisson dans l'eau. Néanmoins, je crois que les Écritures s'adressent indistinctement aux diurnes et aux nocturnes pour dire que c'est quand même le matin qu'on construit sa journée. Que peut-être on ne va pas autant privilégier la durée le matin quand on est nocturne que si l'on est diurne. Et je peux très bien concevoir que quelqu'un qui a ce type d'horloge nocturne puisse passer des moments délicieux le soir avec le Seigneur. Nous n'en disconvenons pas un seul instant, mais néanmoins, il va de soi que c'est au réveil, quand on ouvre l'œil et que on s'est peut-être frotté et qu'on a bu peut-être quelque chose pour nous aider, je ne sais pas, hein, que quand même On a un programme devant soi, on a une journée devant soi, et on veut s'y préparer avec le Seigneur. Et il y a quand même une dominante dans les Écritures qui indique que les hommes et les femmes de Dieu, des Écritures, se levaient pour rencontrer Dieu. Le Seigneur Jésus, lui-même, vous le savez, aimait se lever, si possible, avant même ses disciples, de manière à pouvoir vraiment s'écarter, tout à fait à l'écart, de pouvoir même à les semer, comme on dit aujourd'hui, qu'ils aient de la peine à le trouver, parce qu'il voulait préserver son intimité avec Dieu. Besoin du calme, du silence, d'avoir moins de risques de dérangement par le téléphone, la famille et tant d'autres éléments légitimes en eux-mêmes, mais perturbateurs, quand on veut rencontrer le Seigneur. Chercher le moment le plus calme. Et pour cela, pratiquer ce qu'une célèbre jeune violoniste appelait la négligence planifiée. Vous connaissez la négligence planifiée? Cette violoniste donnait ce témoignage. Il y a quelques années, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses auxquelles je devais consacrer du temps. Après avoir lavé la vaisselle du petit déjeuner, je faisais mon lit, je rangeais ma chambre, j'époussetais les meubles, j'accomplissais d'autres tâches encore. Et ce n'est qu'après cela que je me mettais enfin à pratiquer mon violon. Cette façon de faire ne me permettait pas d'obtenir les résultats désirés. J'ai donc décidé de renverser les choses. J'ai délibérément laissé les autres choses de côté tant que mon temps de pratique n'était pas terminé. C'est ce programme de négligence planifiée qui explique mon succès. Donner à l'écoute la priorité avant toute chose. Chercher premièrement le royaume ou le règne de Dieu sur votre vie et sa justice. Et toutes ces choses, et le contexte indique que c'est le quotidien le plus ordinaire qui soit, nourriture et le reste, n'est-ce pas, vous seront donnés par-dessus tout cela. Et je pense que nous vivons une époque où l'ennemi fait absolument tout pour que nous désorganisions notre manière de vivre et que nous nous couchions très tard sans avoir de raison légitime acceptable au regard de Dieu. Car il est des moments où devant Dieu et dans sa présence nous ne pouvons pas faire autrement que de nous coucher tard. Mais alors nous savons que Dieu nous accorde une grâce particulière parce que nous sommes dans une situation particulière, et n'importe lequel d'entre nous qui vit avec le Seigneur a expérimenté ces moments très spéciaux dont il se rend disant mais c'est extraordinaire, en temps normal jamais je n'aurais pu supporter pour ma santé, pour mes nerfs, etc., de vivre ce régime de vie. Le Seigneur m'a porté. Mais ce que le Seigneur fait dans nos vies quand nous sommes dans sa volonté, il ne le fera pas là où simplement nous n'obtempérons pas lorsque le Saint-Esprit dit à notre cœur, bon sens aidant, mon ami, c'est l'heure d'aller faire dodo. Et je suis désolé de le dire, là encore, notre capacité d'écoute de Dieu est terriblement amoindrie. Nous devenons des infirmes au niveau de nos oreilles internes, précisément aujourd'hui, plus que jamais, à cause de notre indiscipline concernant la nuit. Je vous parlais ce matin des camps internationaux dans lesquels j'ai enseigné pendant une douzaine d'années. Je dois dire que j'ai vu moi-même des jeunes venir de très loin et rater leur camp, simplement parce qu'ils avaient développé au fil de l'année une habitude de désorganisation de leur vie telle qu'arrivés au camp, ils étaient incapables de se coucher tôt et de s'endormir, même malgré les règles draconiennes que nous avions pour précisément que ce camp leur soit un bénéfice appréciable. Et c'était douloureux de dire, mais cet ami est en train finalement de vivre son camp à côté. Tout simplement parce que le matin, il n'avait pas la capacité de pouvoir vraiment rencontrer Dieu et se mettre à son écoute. Donc là encore, c'est un défi pour revoir cette question dans chacune de nos vies personnelles. Allons plus loin pour considérer avec les ciseaux le numéro 4, qui est d'ailleurs bien visible dans l'autre sens, je suppose. Alors, qui veut aller vers le numéro 4 pour le déchiffrer ? Soyez libre, soyez libre. Même les amis du fond peuvent venir. Allez, on va aller vers les amis du fond. Un petit coup, pour que tout le monde participe. Merci, merci, merci tout plein. Voilà. Pour prouver que ceux du fond ne sont pas les cancres, n'est-ce pas ? Voilà, 4, oui. Voilà. Oui, ça serait dommage, merci.
Sang et huile.
Ah, sang et huile. Sang, S-A-N-G, et huile. Huile. Comme les huiles, l'huile. Sang et huile. Tout simplement parce que dans le livre du Lévitique, ce livre qui a très peu la cote, n'est-ce pas ? C'est de nombreux croyants. Lévitique chapitre 14, versets 14 à 17, dans le cadre de deux longs chapitres impressionnants, difficiles à lire, bourrés de répétitions sur ce thème de ce que nous appelons la lèpre, mais qui était en fait une sorte de maladie de la peau contagieuse qui ne faisait pas partie de la lèpre classique, le fameux bacille de Hansen, n'est-ce pas, que nous connaissons bien. C'était quand même quelque chose de différent. Et là, au chapitre 14 et au verset 14, il est écrit: le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité, il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, ceci étant répété. Au verset 17, le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main, sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, par-dessus le sang de la victime de culpabilité. Peut-être nous rendons-nous compte d'emblée, peut-être même à la faveur de cet enseignement, que notre oreille, de même que je peux l'imaginer, notre pied, notre main, ont besoin d'être purifiés. Ont besoin d'être purifiés par le sang de Jésus pour que l'onction du Saint-Esprit puisse trouver sa place, puisqu'il n'y a pas d'onction du Saint-Esprit sans que le sang soit passé d'abord. Vous savez que c'est un des grands enseignements des Écritures. Il n'y a pas d'huile sans le sang. Quand le sang est passé, l'huile descend. C'est une journée traditionnellement dans la chrétienté anniversaire de la première Pentecôte, de cette inauguration d'une invention fantastique, géniale de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, qui a continuellement, au fil des siècles, pendant près de 2000 ans, été caricaturée par la puissance des ténèbres dans toutes sortes de systèmes d'idéologie politique ou religieuse. Tant l'ennemi redoute l'Église de Jésus-Christ, dont Christ est la tête. Et nous savons que cette Église est née parce que Dieu a accompli sa promesse. Le Saint-Esprit est descendu, a rempli des hommes et des femmes qui étaient pour eux, dans cette période de transition entre l'ancienne et la plénitude de la nouvelle alliance, dans ce temps intermédiaire qui était dans l'attente de cet événement, de cet accomplissement. Pas d'huile sans le sang. C'est intéressant, dans Jacques 1, au verset 19, nous l'avons lu hier soir dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, et au verset 19, sachez-le, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, donc prompt à écouter Dieu aussi, hein, lent à parler, lent à se mettre en colère. Et là, nous avons un mot particulier. Il y a deux grands mots dans le Nouveau Testament qui peuvent être rendus par le mot colère. Et ici, c'est la colère qui monte comme le magma en fusion qui prendrait du temps à monter dans la cheminée du volcan. Vous avez un autre terme qui, lui, parle de l'explosion de la montagne Pelée le 8 mai 1902, n'est-ce pas ? 1902, exactement un siècle. Et, alors, vous avez deux mots. Ici, c'est une colère qui vient des profondeurs, une sorte de ressentiment cultivé dans les profondeurs et qui monte et qui monte et qui monte peu à peu jusqu'à ce que, finalement, il se traduise à l'extérieur. Car, verset 20, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Et j'aimerais ici rétablir le lien qu'on ne voit pas toujours entre le verset 19 qui nous invite à être prompt à écouter et le verset 21 qui nous invite à rejeter toute souillure, toute saleté. Il y a là derrière ce mot l'idée de crasse, l'idée de saleté, l'idée donc de souillure. Mais aussi, le terme est utilisé pour évoquer la poix, P-O-I-X, pas la poisse, mais la poix, hein, P-O-I-X, ou encore la cire qui sert à cacheter. C'est intéressant parce qu'un commentateur a souligné donc que ce mot grec, rendu par souillure, est étroitement lié à un mot qui désigne la cire dans l'oreille, cette cire qui nuit à l'audition. Donc, pour être prompt à écouter, encore faut-il aussi que nous nettoyons nos oreilles. ce cérumen qui nous pose parfois tant de problèmes. Alors on aurait pu parler des mains, ce n'est pas notre thème, mais je le dis au passage, dans 1 Timothée 2,8, il est dit qu'il faut élever des mains pures. Alors vous savez comment ce verset est devenu très cher à mon cœur? Il est devenu très cher à mon cœur un certain 13 octobre 1997, alors que je circulais dans un train entre Paris et Orléans. J'étais en route pour un comité et je suis allé au cabinet toilette, j'ai lavé mes mains et ensuite je n'ai mis qu'une main sous l'appareil de séchage par air chaud. J'ai attendu, rien n'est venu. Puis j'ai regardé, il y avait un petit dessin qui indiquait deux mains. Alors je me suis rendu compte que j'avais oublié une main. J'ai mis la deuxième et puis l'appareil s'est déclenché. Et c'est bien parce que c'est ce que dit, hein, il faut élever une main pure. 1 Timothée 2,8. Non, des mains. Et faisons attention, n'est-ce pas? Parce que c'est la même chose avec les oreilles. On a, peut-être qu'on a une oreille à quelque part. Hein, qui, On a tendance à dire c'est secondaire. Et Dieu dit non. Il faut que le sang passe. Je ne sais pas si nous aurons l'occasion de le voir, mais vous savez, il est des choses qui encombrent terriblement nos oreilles. Nous avons évoqué hier certains types de musique, certains bruits destructeurs. Il est des écoutes indiscrètes. Il est des drames liés au fait que certaines personnes écoutent aux portes ce qu'elles ne devraient pas écouter. Pensez à la triste histoire d'Isaac et Rebecca, qui avaient des problèmes de couple manifestes, qui ne se faisait plus confiance. L'un avait un fils préféré, l'autre avait l'autre fils préféré. Et Rebecca, elle écoutait aux portes pour savoir ce que son cher mari tramait peut-être en douce avec son fils préféré. Et ça a été un drame dans cette vie de famille. Et dans les conséquences à long terme. Sang et huile. Alors continuons, alors un peu plus loin, toujours avec notre arme. Nous allons vers le chiffre 5. Alors qui va venir vers nous pour le chiffre 5? Ne vous tâtez pas trop longtemps. Merci à notre ami le fond est en train de rejoindre la forme. Merci. Donc là, 5. Tendre l'oreille. Ah, ça c'est intéressant. Merci. Tendre l'oreille. Tendre l'oreille. Matin après matin, voici qu'il me réveille. Il ouvre mon oreille afin que je l'écoute comme écoute un disciple. Ésaïe 50, verset 4a. Afin que j'écoute comme écoute un disciple, un apprenti. Je me souviens d'une année où je donnais une série d'enseignements dans le cadre de l'association pour l'évangélisation des enfants. Les responsables avaient leur retraite annuelle et je préparais une des études. J'étais dans ma petite chambre et juste au moment où je travaillais cette question de l'écoute dans la vie de cet homme de Dieu Barnabas qui a été un homme d'écoute tout particulier dans l'église primitive, j'ai entendu, sans prêter spécialement l'oreille, dans la chambre d'à côté, des annonnements particuliers. Et je me suis très rapidement rendu compte qu'il y avait dans la chambre d'à côté une leçon de français. En vérifiant ensuite, effectivement, c'était tout à fait vrai, un missionnaire, je crois, australien, venait d'arriver en France pour travailler dans l'équipe de l'association pour l'évangélisation des enfants. Il ne maniait pas du tout la langue française et il profitait de cette retraite pour recevoir de la part d'un Français, n'est-ce pas, à l'œuvre dans cette association des leçons de français. C'était très intéressant parce que j'avais à quelques pas de moi de l'autre côté du mur l'exercice du disciple, de l'apprenti qui s'efforçait de répéter la phrase du maître. Et vous savez combien il faut faire attention, n'est-ce pas? Combien il faut s'appliquer. Et je peux comprendre que une des versions d'Ésaïe 50, verset 4, est rendue le début de cette phrase par ces mots « Il me fait dresser l'oreille ». La vieille version Darby a en note « Il réveille mon oreille, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme ce qu'on enseigne, ce qu'on enseigne. » Une compagnie de navigation qui recherchait un opérateur radio a donc vu venir vers ses bureaux de nombreux candidats à l'emploi. Ils sont arrivés, ils ont pris place dans une grande salle avec leur convocation et ils devaient ensuite pénétrer dans un petit bureau pour rencontrer le chef du personnel. Et en attendant qu'ils pénètrent dans le bureau du chef du personnel, ils discutaient les uns avec les autres, ils faisaient connaissance, les conversations allaient bon train, lorsque tout à coup, dans cette grande salle, une des personnes, un jeune homme, qui paraissait mais totalement indifférent à tout ce qui se disait, se lève et d'un bond se précipite dans le bureau du chef. Et il en ressort un court moment plus tard, avec un large sourire, ne pouvant s'empêcher de dire aux autres candidats qu'il était accepté comme opérateur radio. Or, il n'en fallait qu'un. Et vous imaginez donc la déception des autres candidats qui n'avaient plus qu'à se retirer, ce qu'ils firent non sans se plaindre, certains d'entre eux disant d'ailleurs, mais nous étions là avant lui, pourquoi ne nous a-t-on pas reçus, nous ? Le chef du personnel, avant qu'il ne déguerpisse d'entrer dans la pièce, pour leur donner des explications. Et de leur dire, vous savez, c'est très simple, un message a été transmis en morse dans la salle où vous vous trouvez. Et ce message disait ceci, le premier qui recevra ce message peut entrer directement dans mon bureau, c'est lui qui sera accepté. Nous avons besoin d'un homme qui soit toujours en alerte. Nous avons besoin d'un homme qui soit toujours en alerte. C'est intéressant parce que c'est notamment là le sens, la définition étymologique du verbe « entendre ». À l'inverse de la définition qui s'est développée au fil des ans, des temps, puisque on admet couramment, d'ailleurs je vous ai donné une citation ce matin qui allait dans ce sens, que le verbe « entendre » se situe à un niveau inférieur par rapport au verbe « écouter ». Il y a derrière entendre, dans nos mentalités, une dimension de passivité. Hein. On entend, il y a là le geste mécanique, il y a du bruit, ça entre. Alors qu'écouter, dans nos mentalités, sous-entend quelque chose d'actif, quelque chose qui se traduit par un effort. Or, il faut savoir que entendre, c'est littéralement tendre vers. Je tends de tout mon être vers. Ce qui fait qu'il n'est pas du tout fou de lire dans les Écritures que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Là où nous serions tentés de mettre écouter, en fait, il y a un mot grec, et ce mot grec peut aussi bien être rendu par entendre que par écouter, parce que nous allons le voir un peu plus tard, écouter a aussi un sens qui va dans la même direction, mais nous allons y revenir un petit peu plus tard. Tendre vers. L'écoute de Dieu est aussi primordiale dans la vie du croyant que celle de l'apprenti dans la relation, sa relation avec son maître. De sa qualité d'écoute dépendent sa réussite et son utilité dans l'exercice de son métier. Et Jésus-Christ, sur la terre, au milieu des hommes, avait cette qualité d'écoute. Il avait une oreille exercée à l'écoute du Père. Jean 5, 30, « D'après ce que j'entends, je juge. » Jean 8, 26, « Ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Versets 28 et 40 de Jean 8 aussi, « Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. » En permanence, l'oreille intérieure du Seigneur Jésus était tendue. Je ne dis pas dans cette sorte de tension épuisante. Nous sommes invités à une tension simplement de saine vigilance. Inutile de serrer les poings et les dents et de essayer d'allonger les oreilles, n'est-ce pas ? Dans les Écritures, n'est-ce pas, notre vigilance doit être paisible, notre attente doit être paisible, mais néanmoins, nous devons être mobilisés. Sans agressivité, mais mobilisés heure après heure, dans la présence du Seigneur, pour pouvoir entendre sa voix. J'aime cette relation du Fils et du Père, le Fils disant ce qu'il entend du Père, parce que cela me fait penser aux nombreuses fois au fil de mon ministère où j'ai été ou suis traduit dans un certain nombre de langues. C'est très intéressant de travailler en équipe, n'est-ce pas, en étant donc interprété dans une autre langue. Ça ne marche pas toujours. Je pourrais vous raconter des histoires semi-cocasses, tragicomiques, ou parfois c'est tragique, ou même dans certaines situations, je me souviens de tout un programme d'exposé au Pays de Galles, où ça s'est très mal passé, et où finalement, à ma grande détresse, j'ai dû à un moment donné dire, et ça m'a fait un mal énorme, ou bien nous abandonnions simplement la réunion, n'est-ce pas, demander à la personne qui me traduisait de se rasseoir. Et d'une part, elle n'était pas convertie à Jésus-Christ. C'était une réunion destinée à l'Église de Jésus-Christ, donc un enseignement pour l'Église. D'autre part, elle était très jeune, elle ne l'avait pas fait. Je me suis demandé comment on avait pu me donner une telle traductrice. Et c'est mon épouse qui a pris le relais, parce qu'on avait l'habitude de travailler ensemble. Donnant un enseignement dans un institut biblique au sud du Pays de Galles, je parlais de l'importance de ne pas prier pour les morts. Lorsque mon interprète s'est arrêté dans la traduction, s'est tourné vers moi dans un institut biblique, s'il vous plaît, pour me dire comment il ne faut pas prier pour les morts. Et donc j'ai dû lui dire, écoutez, continuez à traduire, nous aurons un entretien ensemble tout à l'heure. C'est un exercice, n'est-ce pas, dans lequel, dans ce travail d'équipe, D'une part, il faut que celui qui parle fasse un effort pour que l'autre ait la capacité d'absorber, d'écouter, d'entendre convenablement. Si vous faites des phrases qui durent une éternité, vous posez des problèmes énormes. Si vous coupez au mauvais moment, vous posez des problèmes énormes. Et puis en fonction des langues, quand le verbe est rejeté à la fin, vous posez encore d'autres problèmes. C'est tout un art, n'est-ce pas? Et vous avez une tension qui fait qu'à la fin de ce type d'enseignement, vous êtes épuisé parfois, simplement parce que vous avez dû faire corps dans une écoute extrêmement attentive et dans un désir de rendre service à l'autre qui doit être aussi très fort. Dieu parle de diverses manières, disent les Écritures. Job 33, verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, ou encore une. Le texte ajoute, et l'on n'y fait pas attention. Au verset 16, il ajoute, il ouvre l'oreille des mortels, il dévoile l'oreille des hommes, littéralement. Et il parle donc parfois extrêmement fort. Et nous pourrions parcourir tous ces textes de l'Exode, du Deutéronome, repris dans l'Épître aux Hébreux, qui évoquent la peur terrifiante, n'est-ce pas, du peuple d'Israël et de Moïse lui-même. Lorsque Dieu s'exprimait dans ce bruit alors, terrifiant aussi même. Nous avons vécu il y a déjà un certain nombre d'années une expérience qui m'a bouleversé en montant pendant une nuit vers le sommet du Sinaï. C'était au début du mois de février, nous étions quelques-uns, et nous avons été pris aux deux tiers du sommet dans une tempête de neige, accompagnée de blizzards, un véritable blizzard, et d'un orage qui s'est déchaîné avec les éclairs qui zébraient le ciel, vous savez, le rebondissement, comme hein, cette espèce de redondance qui frappe une muraille pour aller se répercuter sur une autre et un peu plus loin. En montagne, les orages peuvent prendre un volume absolument exceptionnel, n'est-ce pas? Et nous savions que c'était rien à côté de ce qui s'est passé sur cette montagne lorsque la gloire de Dieu s'est révélée et que Dieu a donné sa loi au peuple d'Israël par la main de son serviteur Moïse. Et puis il y a, à côté de ça, à côté de ce Dieu qui parle du milieu de la tempête, il y a le Dieu qui parle avec une immense douceur. C'est le Dieu qui s'adresse à son serviteur dépressif, le prophète Élie, ce champion de la gloire de Dieu au Sinaï, ce champion du feu qui descend du ciel, ce champion de la sainteté de Dieu. Dieu lui parle avec le son d'une douceur tranquille, un doux silence, le son subtil d'un silence, l'approche d'un Dieu connaissant la détresse et le besoin de son serviteur. Et voyez-vous, je crois que dans nos vies, pour l'Église de Jésus-Christ en particulier, c'est cette dimension-là que Dieu privilégie dans ses rapports avec nous. D'ailleurs, c'est ce qui est dit dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 12, 18 à 21, Matthieu chapitre 12, versets 18 à 21, lorsque, parlant du ministère de Jésus, c'est le prophète Ésaïe qui est évoqué, versets 18 et suivants. Voici mon bien-aimé que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations, il ne contestera point, il ne criera point, personne n'entendra sa voix dans les rues, il ne brisera point le roseau cassé. Alors là vous avez l'explication, parce qu'on pourrait se dire, mais quand même, on a entendu la voix de Jésus dans les rues. Mais la suite du texte explique ce que le prophète a voulu dire dans ce passage de prophétie messianique. Il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice et les nations espéreront en son nom. Jésus ne s'est jamais installé au coin d'une rue pour haranguer les foules avec une agressivité méchante. Jésus n'a jamais fait du tapage. Jésus n'a pas eu besoin sur la terre d'élever la voix pour hurler son message. Il y avait dans l'approche de Jésus toute une douceur associée à la fermeté d'en haut. Et c'est comme cela que Jésus veut nous parler. C'est ainsi que Dieu préfère parler à ses enfants, à ses amis, jour après jour. Les manifestations exceptionnelles sont pour les situations exceptionnelles. L'oreille du cœur doit donc être exercée à cette écoute d'un Dieu qui veut d'abord être dans nos vies un Dieu de paix. Et si parfois Dieu est obligé de parler dans la tempête, c'est toujours à regret qu'il le fait. Parce que Dieu préfère le langage de l'intimité. D'ailleurs, écoutez, je l'annonçais tout à l'heure, est un verbe intéressant dans l'histoire de ce mot, l'écoute. Au début du XIIe siècle, c'était l'espion. La personne qui guette. Et le verbe écouter vient d'un mot latin que nous comprenons immédiatement, auscultare, ausculter. Vous voyez le geste du médecin qui pose le stéthoscope et qui écoute attentivement. Et nous, on fait la même chose. Ça fait toutes sortes de bruits et on est incapable de discerner où est le problème. Une écoute extrêmement attentive. Un professeur de sciences naturelles avait organisé une sortie d'observation sur le terrain. Il traverse une forêt avec ses élèves et subitement demande à ses jeunes élèves « Est-ce que vous entendez ?» Personne ne répond. « Mais enfin, vous n'entendez pas ces petits coups de bec ?» Toujours aucune réponse. Le groupe continue à avancer, les enfants commencent peu à peu à percevoir tout d'abord très faiblement le bruit dont parle le professeur et finalement ils aperçoivent un pivert ou un pic vert qui martelait du bec l'écorce d'un hêtre. Et c'est alors que ces enfants réalisèrent à quel point l'ouïe de leur professeur était sensible au moindre bruit de la nature. Il faut rentrer en classe, et de retour à l'école, le maître laisse volontairement tomber à terre quelques pièces de monnaie. Ça appartient à une autre époque, ça a hélas changé depuis. Puisqu'immédiatement, ses élèves se précipitèrent pour les ramasser. Sous-entendu pour les lui redonner. Et le maître de dire, ce sera ma leçon. Chacun de nous est capable d'entendre les bruits auxquels il a habitué son oreille. Chacun d'entre nous, et je le dis pour nous, est aussi capable d'entendre les bruits auxquels il a habitué son oreille. Et il y a, j'en suis absolument persuadé qu'on le veuille ou non, on a beau ne pas vouloir être discriminatoire, etc. Il y a des différences sensibles dans l'écoute de Dieu entre chacun d'entre nous. Il y a ceux qui sont sans aucun entraînement et qui sont parfois très sceptiques lorsque dans leur relation amicale, ils ont affaire peut-être à quelqu'un qui a cette sensibilité. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu me racontes? T'as pas peur que ça vienne de la puissance des ténèbres? Nous sommes très sceptiques quand nous n'avons pas l'habitude de l'écoute de Dieu. Ça nous semble tellement étrange, surnaturel, dangereux. Et pourtant, le Dieu vivant n'a pas changé. Et encore aujourd'hui, comme le dit le psaume 25, je crois, ses communications intimes sont pour ses adorateurs, pour ceux qui passent du temps dans sa présence et qui tendent leur oreille intérieure parce qu'ils ont véritablement envie de capter la pensée de Dieu solidement appuyée conforme aux Écritures saintes par le travail du Saint-Esprit dans leur vie. Dieu n'a pas changé. Et si nous pouvions quitter ce lieu demain en nous rappelant que Dieu n'a pas changé et que Dieu veut aussi parler à notre cœur d'une manière qui nous soit sensible. Je ne veux pas parler, je le répète, de toutes ces modes actuelles d'un christianisme hyper sentimental qui repose sur du flou doctrinal et où on prend pour voix de Dieu toutes sortes de voix qui n'ont rien à voir avec la voix de Dieu. Comprenons-nous bien. Je ne suis pas de ce bord-là et je ne peux en être. Mais néanmoins, si nous sommes imprégnés de la pensée de Dieu, des Écritures, si nous les parcourons de tout notre cœur, si nous prenons le temps de les écouter, si nous donnons à Dieu le temps de se révéler à nos cœurs, nous allons de plus en plus expérimenter que Dieu est un Dieu vivant qui sait parler pour être entendu, pour être compris, tout au fil de nos journées. Tendre l'oreille. Soyez attentifs. Que votre oreille intérieure soit en alerte. Il en reste deux. Alors, nous allons vers le petit papier numéro 6 qui se lève. Merci Esti. C'est gentil. Oui, le 6 de préférence, oui. Voilà, merci.
Écoutez Dieu.
Ah, écoutez Dieu. Écoutez Dieu. Vous vous souvenez du texte que nous lisions ce matin dans le livre de l'Ecclésiaste et dont je vous disais que nous le reprendrions aujourd'hui, Ecclésiaste chapitre 4, verset 17 à 5:2. Ecclésiaste 4, 17 ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Alors c'est bizarre, hein? Parce que tout d'abord il est question des pieds et tout de suite après de l'oreille. Et on est tenté de se dire, mais quel lien il peut y avoir entre les deux? On se serait dit, mais prends garde à ton oreille lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter. Non, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. C'est Jésus qui, dans ce qu'on appelle le serment sur la montagne, la charte du royaume de Dieu, du règne de Dieu sur le cœur du croyant, en attendant la réalisation suprême du royaume, c'est Jésus donc qui dit dans Matthieu 6, 7 que nous ne devons pas tacter comme les païens. Nous avons lu ce passage ce matin. Pas de moulin à prière, pas d'obstruction qui empêche le Seigneur de parler. Nous devons éviter ce que j'appellerai, pardon de le dire ainsi, les mantras évangéliques. Vous savez ce que c'est qu'un mantra ? Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Vous savez, hein, ces répétitions qui n'en finissent pas et qui sont une sorte de conditionnement psychique et finalement diabolique, un accaparement, une mobilisation, mais soporifique en quelque sorte, de l'esprit par la puissance des ténèbres. Nous avons nos mantras. Nous avons nos mantras. Celui ou celle qui, quand il ou elle prie, parsème chaque phrase de ses prières du mot Seigneur bouche des trous. A-t-il peur, a-t-elle peur des silences? A-t-il, a-t-elle peur de prendre le temps, de simplement composer des phrases avec les capacités de langage qui sont siennes, puisque Dieu comprend le baragouinement de l'enfant de 3 ans, aussi bien que la parole de l'érudit de lettres, n'est-ce pas? Ce n'est pas un problème. Mais il est si facile d'avoir notre moulin aussi dans ce domaine. Pas de moulin à prière. Je n'ai pas affaire à une idole. Je n'ai pas affaire à un distributeur automatique. Je n'ai pas affaire à un marchand de tapis, à une marionnette. Pas d'approche formaliste, centrée sur la tradition, les coutumes et les rites, le simple devoir religieux. C'est mépriser Dieu. C'est par là que l'Ecclésiaste commence. Et il dit donc, dans ce sens, prends garde à ton pied. Tout simplement parce que, en entrant dans le sanctuaire, tu pénètres sur un territoire saint. Prends garde à ton pied parce que tu pénètres sur un territoire saint. Nous avons évoqué aujourd'hui ce que nous aurions pu évoquer, la perte du sens du sacré. Il existe un sens du sacré qui est exagéré et faux et qui est superstitieux. Et il est évident qu'on a cultivé dans toutes sortes de systèmes religieux, y compris dans le système catholique, un sens du sacré qui est allé beaucoup trop loin, qui est devenu quelque chose de superstitieux. Mais le problème, c'est que nous, évangéliques, par réaction contre ces excès, cette sacralisation à outrance, et par aussi des moyens magiques, parce qu'un lieu devient sacré quand quelque chose de particulier s'y passe, n'est-ce pas? Nous sommes allés à l'autre extrême. Il doit rester dans nos vies quelque chose de sens du sacré, pas dans le sens catholique, mais en réalisant, comme nous l'avons vu, n'est-ce pas, que quand nous nous réunissons ensemble, d'une manière toute particulière, Dieu veut manifester sa présence au milieu. Il peut, hélas, être un présent absent ou un absent présent, comme dans le livre d'Esther. Ou il peut manifester sa présence de manière plus sensible, pas forcément touchable, palpable, de manière matérielle et corporelle, c'est pas ça ce que je veux dire. Mais vous avez sans doute tous, vous et moi, nous avons vécu de ces moments où nous sommes ressortis en disant, mais vraiment, nous avons réalisé que le Seigneur était présent au milieu de nous. Il était là. Je me souviendrai toute ma vie de la nouvelle naissance, peut-on dire, d'un cher ami qui est dans le service de Dieu depuis 1974 à peu près. Il a été un des premiers à se donner à Jésus-Christ dans notre ministère dans une petite ville des Côtes d'Armor, à l'époque les Côtes du Nord. C'était un agriculteur breton, de famille très catholique, ayant quantité de gens de robe, prêtres et autres dans sa famille. Et je me souviendrai toute ma vie de cette soirée. Je donnais toutes les semaines ou tous les 15 jours un enseignement avec des dimensions d'évangélisation sur le retour de Christ. Et c'était un agriculteur converti à Christ qui essayait de réunir tous les amis des environs, toutes sortes d'agriculteurs autour de lui. Et parmi ces agriculteurs, il y avait ce cher ami Pierre. Et ce soir-là, j'ai vécu un moment extrêmement difficile dans l'enseignement. Parce que quand je suis entré dans cette cuisine, où nous nous réunissions, j'avais l'impression que l'atmosphère était d'une épaisseur, d'une densité, et d'une densité d'opposition absolument incroyable. J'avais l'impression de labourer dans un champ inondé. C'était à arracher un mot après l'autre, n'est-ce pas? Arrivé au bout de l'enseignement, nous avons décidé de prendre un temps dans la prière. Et c'est pendant la prière que j'ai commencé à réaliser où exactement se situait le problème, lorsque subitement, pendant qu'un certain nombre priait l'un après l'autre, Pierre, mon ami, qui était là à ma gauche, dit « Mais moi, je voudrais prier, mais je ne peux pas. » Il y a comme un voile qui m'empêche de m'exprimer. Et alors, pendant que tous les autres amis priaient, j'ai commencé à parler avec lui, n'est-ce pas ? Nous avons eu un dialogue ensemble où nous avons parlé du voile. Et puis, il est arrivé un moment extraordinaire où cet ami, pendant que les autres priaient, a accepté de faire une démarche devant Dieu. Il avait fait de l'occultisme. Il y avait tout un passé qui pouvait expliquer la présence active de la puissance des ténèbres voulant à tout prix empêcher sa nouvelle naissance. Et subitement, le voile s'est déchiré. Et l'atmosphère de cette pièce est devenue, mais d'une limpidité, en un instant, nos cœurs aux uns et aux autres ont été complètement libérés au point que nous avons vu un moment de prière. Très gentil, très calme, il n'y avait rien d'exubérant à faire sauter la baraque, n'est-ce pas ? Mais nous aurions pu prier pendant des heures et pendant toute la nuit, n'est-ce pas ? La puissance des ténèbres avait été vaincue. L'ennemi, déjà dépouillé à la croix, venait d'être défait sur le terrain. Et nous avons compris pourquoi l'intensité de cette lutte. Puisque quelques semaines plus tard, dans une nuit de prière, dans la nuit de Pâques, Dieu appelait ce jeune homme âgé de 30 ans à son service. Et il partait ensuite, envoyé par notre église, se former dans un institut. Ensuite, en Angleterre, il est devenu stagiaire dans notre église. Et puis ensuite, mon collaborateur, avant de me succéder, lorsque nous avons dû quitter la Bretagne. Vous le connaissez pour certains d'entre vous, c'est Pierre Boulanger, qui sert actuellement Dieu en Bretagne. Et Dieu a béni son ministère. Mais on sait ce qu'est la différence entre une sorte de présence absente du Seigneur. On a presque le sentiment parfois que le Seigneur est présent presque à regret. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et ces moments où, parce qu'il a affaire à un peuple qui est à l'écoute, qui a soif de lui, le Seigneur désire aussi se communiquer dans la beauté de sa personne, pour que nous puissions au moins toucher un petit peu quelque chose de son vêtement. Il ne le fera pas systématiquement, parce qu'alors nous devrions des gens qui ne courent qu'après ça, n'est-ce pas ? Mais il sait nous le donner. Prends garde à ton pied. Dans la rencontre avec Dieu, je foule un territoire saint. J'entre dans le sanctuaire. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Prends garde à ton pied, comme le dit un commentateur, il faut courber la tête pour regarder ses pieds. Et c'est un autre sens. On n'entre pas dans la présence de Dieu la tête haute. Satisfait de soi. On entre dans la présence de Dieu avec humilité parce que nous nous approchons d'un grand Dieu. Dieu est au ciel et toi sur la terre. Et nous l'avons déjà dit, mais nous le répétons. Écoutez Dieu, c'est avoir conscience de sa grandeur, de sa sainteté, du caractère de Dieu. Dieu est majestueux, roi des rois, seigneur des seigneurs. Prenez les grandes prières des Écritures et vous verrez ces hommes de Dieu qui commencent dans leur situation de détresse par brosser un court portrait du Dieu de sainteté, de gloire, du Dieu très élevé. Et ensuite, ils plongent au cœur de leurs problèmes pour les présenter à Dieu. Daniel 9, n'est-ce pas ? Esdras 9, Néhémie 9 et tant d'autres passages. Josaphat dans 2 Chroniques 20, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Dieu est le Dieu souverain, on ne le violente pas. Il a droit à mon respect le plus profond, ce qui est appelé la crainte de l'Éternel dans les Écritures. Mais aussi, disons-le, on l'écoute parce qu'on l'aime. Il est amour. Quelqu'un écrit, nous écoutons avec attention généralement les gens que nous aimons. Trouvons les raseurs aimables et nous les écouterons. Mais Dieu n'est pas raseur. Dieu a tant de choses à nous dire. Dieu a tant de choses à partager avec nous. Avant même que nous soyons là-haut. Déjà sur la terre. Dieu voudrait partager avec ses amis, ses enfants, tant de choses. Nous l'avons lu hier, Deutéronome 15, 15 à 17, l'esclave qui se laissait percer l'oreille parce qu'il aimait son maître, qu'il se trouvait bien chez lui. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Conclusion du psaume d'un chantre et directeur de chorale dépressif, qui faisait chanter sa chorale tout en maniant ses propres instruments, avec la larme à l'œil et de gros problèmes au niveau de son sympathique, qui était en pleine déprime, tout simplement parce qu'il ne comprenait plus la stratégie de Dieu face au bonheur des insensés. Et qui finalement va terminer ce psaume qui est une véritable radiographie de son âme perturbée en disant « Mais pour moi maintenant, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Nous l'avons lu dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5, n'est-ce pas ? C'est un beau texte concernant ceux qui ratent l'écoute. Cette Sulamite qui est bien couchée, endormie, son cœur veille. Et puis le bien-aimé qui veut venir passer un moment avec elle. Et puis elle hésite. Je suis si bien dans le dodo. Les draps sont si chauds. Je vais faire la grassouillette matinouillette. Et puis il insiste un peu. Alors on finit par se sortir du lit. On ouvre la porte. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Et elle est folle de douleur. Parce que son cœur a quand même battu très fort quand elle a entendu la Sulamite, la voix du bien-aimé. Et elle va donc courir à travers la ville. Elle va même être molestée irrespectueusement donc par les gardes de la cité en pleine nuit. Parce qu'elle est complètement désemparée. Et elle n'a pas eu cette intimité d'amour avec son bien-aimé. Combien de fois est-ce notre expérience ? Jean 3, 29, Jean-Baptiste, l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Nous sommes les amis de l'époux. Nous sommes à la fois les enfants et les intimes de l'époux. Est-ce qu'il y a dans notre relation avec lui cette culture de l'amitié? Une des paroles les plus douces à mon cœur de père que j'ai entendue, il y a 2 ou 3 jours à peine, émanait de notre dernier, Emmanuel, qui donc va sur ses 22 ans, qui marche vraiment avec le Seigneur et qui me disait à peu près ceci: papa, jamais je n'aurais pensé, même l'année dernière encore, pouvoir trouver un tel plaisir à parler avec Dieu. Et c'est vrai que quand notre fils a découvert le bonheur de parler avec Dieu, sa croissance spirituelle a fait un bond en avant. Jusqu'alors, il le faisait parce qu'il était converti à Christ, parce qu'il savait que la prière est la respiration de l'âme, que sans respiration, on meurt. Donc il s'attachait à essayer de développer cette vertu. mais il n'avait que de fugitifs instants d'amitié. Et puis s'est passé quelque chose dans sa vie de plus profond, Dieu voulant l'amener à un stade plus profond de relation avec lui. Et Emmanuel s'est mis à réaliser qu'il avait besoin d'aller à la rencontre de ce Dieu qu'il avait sauvé en Jésus-Christ et qu'il se plaisait en sa compagnie. Est-ce que nous nous plaisons dans la compagnie de Dieu? Écoutez Dieu. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Elles me suivent. Nous sommes les brebis du bon berger. Nous avons évoqué le Deutéronome. Cette importance de l'écoute, cette importance de l'obéissance, la relation de fils aîné de Dieu pour Israël, le fils premier-né de Dieu Israël, en face du Père, qui l'éduque, et combien le livre du Deutéronome est riche de l'amour de Dieu, de la sollicitude, des tendres soins du Dieu Père dans l'Ancienne Alliance, mes amis. Mais je n'oublie pas que dans le livre du Deutéronome, j'ai relevé moi-même quelques 324 mentions de ce tout petit mot. Mon, ton, son, notre, votre, leur. Il est mon Dieu. Il est ton Dieu. Il est son Dieu. Il est notre Dieu. Il est votre Dieu. Il est le Dieu de leur Père, c'est-à-dire leur Dieu. 324 fois dans le livre du Deutéronome. Pour évoquer cette intimité absolument extraordinaire entre Dieu et son peuple par le biais de cette alliance qui un jour pourtant deviendra caduque à cause d'une sorte de lettre de divorce, disent les Écritures, donnée par Dieu à Israël à cause de son péché, pour que intervienne une nouvelle alliance, basée, elle, sur l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, alliance basée sur le sang de Christ. Nous devons terminer avec le numéro 7. Alors, qui aura fait l'expérience? Merci. Alors là, je suis comblé. Mon équipière première. Et c'est mon équipière. Heureusement que ça vient de toi. Merci. Tout écouter. Tout écouter. Sept d'ailleurs, hein? Sept chiffres de plénitude. Chiffres totalitaires, chiffres d'accomplissement dans les Écritures. Il me semble que dans l'Apocalypse, sept revient 54 fois. Une écoute totalitaire. Pas de tri, le refus des préjugés, de la réserve mentale. Nous ne sommes pas autorisés à filtrer pour n'écouter que ce qui nous plaît. Nous avons parfois peur d'entendre des messages désagréables, pourtant bien nécessaires pour notre sauvegarde et celle des autres. Pensez à Samuel, ce jeune homme, cet enfant, mais enfin le terme hébreu laisse entendre qu'il aurait pu aller jusqu'à 20 ans. Mais enfin, Joseph, l'historien juif du 1er siècle, le situe aux alentours des 10 ans, si mes souvenirs sont exacts. Eh bien, ce grand enfant Samuel, dans son apprentissage de l'écoute de Dieu, a reçu de la part de Dieu un message extrêmement désagréable à donner. Il était rempli de confusion. D'être mandaté par Dieu pour dire à celui qui était son aîné, ce vieillard qui avait une si longue expérience, des vérités si douloureuses concernant l'échec que le souverain sacrificateur Élie connaissait dans sa propre vie de famille, n'ayant pas exercé son ministère de souverain sacrificateur dans son foyer, au point de laisser ses propres enfants mépriser l'Éternel de manière absolument odieuse. Et c'était un gamin qui était mandaté par l'Éternel pour dire cela à ce vieillard. Et c'est vrai que il est des messages parfois difficiles à écouter. Qu'ils soient pour nous, qu'ils soient donnés à notre cœur pour les partager avec d'autres. Et nous devons reconnaître que nous sommes tentés de nous défiler parfois. Quand Dieu, dans la solidarité du corps, par exemple, nous demande humblement, conscient de notre propre fragilité, de notre propre vulnérabilité, de toutes les fois où nous avons chuté dans le même domaine, d'aller vers un frère, d'aller vers une sœur, par amour, avec douceur, pour lui dire: mon frère, ma sœur, pas d'accord avec toi. Je suis obligé de te le dire parce que nous sommes solidaires et ton péché à quelque part touche ma vie. Il touche le corps. Combien de fois n'avons-nous pas reculé? Et nous pourrions prendre tant et tant d'autres exemples où Dieu nous dit comme cela des messages, nous confie des mandats, où nous dit pour nous-mêmes des choses que nous n'avons pas envie d'entendre. Et pourtant, nous devons tout écouter, et écouter jusqu'au bout. Et il arrive des moments aussi où nous nous arrêtons dans notre écoute, où nous ne laissons pas Dieu achever ses phrases. Demain matin, nous allons nous pencher dans la dernière étude qui pourrait durer beaucoup plus longtemps, mais nous ne le ferons pas. Nous allons nous pencher sur l'écoute des autres. Et nous allons évoquer notamment cette propension, cette facilité déconcertante, cette tendance tellement habituelle que nous avons dans le monde moderne de couper à tout bout de champ la parole à notre interlocuteur. Nous sommes dans un monde en mal de courtoisie, où déjà à l'intérieur de nos familles, on caquette à sens et à contresens, on se coupe dans ces discussions qui fleurissent et ne s'arrêtent jamais. Et le problème, c'est que cela se répercute dans notre écoute de Dieu. Nous dit-il quelque chose qui nous déplaît tant soit peu, nous lui coupons le caquet. Et parfois, hélas, il a peut-être au bout du compte des choses merveilleuses à nous dire. Simplement, ça commence de manière désagréable. Tout écouter. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: voici le chemin, marchez-y. Nous avons soif, j'ai soif dans ma vie d'entendre derrière moi cette voix de Dieu qui face à mes choix m'indique la direction à suivre. Mais je n'aurai capacité d'écoute que si je réunis cet arc-en-ciel de conditions pour que mon écoute de Dieu soit une véritable écoute qui fasse le plaisir de mon Dieu et qu'il veut construire en moi par le Saint-Esprit. Et nous pouvons le lui dire, Seigneur, construis en moi de nouvelles manières d'écouter. Je veux progresser, je veux entrer dans ma vie dans un nouveau champ d'expérience. Je ne peux pas me satisfaire simplement de ce que je sais et de ce que je vis jusqu'à présent. J'ai besoin d'aller plus loin. Et dans ce domaine de l'oreille, j'ai besoin d'apprendre quelque chose de plus. Je veux aller plus loin dans ma marche avec toi. Je vous livre en terminant simplement cette remarque d'un théologien évangélique qui souligne qu'écouter comprend notamment ces quatre éléments. Premièrement, nous accordons une attention entière, sans relâche, à ce que Dieu nous dit par son Saint-Esprit, j'y ajoute, en accord avec sa parole. Par une ferme décision de notre volonté, nous éliminons toute influence externe qui pourrait nous distraire. Deuxièmement, nous inclinons notre oreille. Nous adoptons une attitude humble et soumise envers Dieu. Nous renonçons à nos préjugés, à nos conceptions particulières et nous acceptons ce que Dieu dit au sens plein et pratique. Troisièmement, nous gardons les yeux fixés sur les paroles que Dieu nous désigne. Nous ne laissons pas nos regards errer vers d'autres interprétations ou d'autres sources qui contredisent ce que Dieu déclare. Quatrièmement, même quand les paroles ne sont plus sous nos yeux, nous continuons à les méditer dans nos cœurs. De cette manière, nous les conservons continuellement au centre de notre être et leur influence pénètre chaque domaine de notre vie. Seigneur, merci. Merci en cette fin d'après-midi d'avoir bien voulu, dans ta générosité inouïe, nous ouvrir de nouveaux espaces, élargir certaines avenues de réflexion et de pratique concernant l'oreille, notre écoute de ta parole vivante, notre écoute de ta personne. Seigneur, oh, si cette soif de t'écouter n'existait pas ou avait été tuée en nous par d'autres écoutes, dans ta grâce, viens nous visiter avec le sang de Christ. Que ce sang versé sur la croix pénètre jusqu'au plus profond de notre oreille intérieure, afin qu'elle soit purifiée de tous ces bouchons de cire humaine, de toute cette cire, de toutes ces souillures, qui trop souvent rendent ton message moins audible à nos cœurs. Mais Seigneur, merci de savoir que, une fois notre oreille intérieure purifiée par le sang de ton Fils, l'huile de ton esprit pourra y être versé en surabondance. Merci de pouvoir venir au pied de la croix pour cela. Nous te bénissons. Mets ton sceau dans ta grâce à cause de ton Fils bien-aimé et par le beau ministère de ton esprit. Mets ton sceau sur tout ce que nous avons partagé sous l'autorité de ta parole. Merci par avance, en Jésus-Christ.